Ce balado vous est présenté par interbible.org, le portail biblique francophone. Bienvenue à cette émission des récits insolites de la Bible. Ici Sébastien Daune, bibliste, avec vous pour redécouvrir la Bible d'une façon inhabituelle et intéressante. Alors, c'est ce qu'on va faire avec un prophète de l'Ancien Testament aujourd'hui qui n'est pas nécessairement le plus populaire. Est-ce que vous connaissez le prophète Osée? Bien, c'est lui qui sera au cœur de notre émission. On va s'introduire de façon générale à ce prophète-là et on va voir que c'est assez dur d'avoir un prophète comme père. Bonne émission! Avant de parler du prophète Osée, je vous invite toujours à m'écrire pour me faire parvenir vos questions, vos commentaires. Et il y a quelques semaines, nous avons parlé de la résurrection de Jésus, entre autres en regardant la fin de l'Évangile de Marc. J'ai reçu un message de Claudette qui pose des questions au sujet des apparitions de Jésus dont on avait parlé un petit peu. Elle écrit « Jésus a-t-il été visible dans ses apparitions, c'est-à-dire que les gens pouvaient le voir avec les yeux de leur corps? Si Jésus est apparu physiquement, pourquoi ne nous apparaît-il pas encore aujourd'hui? » Serait-ce pas plutôt des expériences spirituelles que les apôtres ou les disciples ont vécues? Tout se passe à l'intérieur de leur être. La présence du Christ est si forte en eux qu'ils en parlent comme si Jésus était à leur côté bien visible. Mais c'est avec les yeux du cœur qu'ils le voient. Par exemple, la pêche miraculeuse. Les apôtres étant allés pêcher pour gagner leur vie, même après la mort de leur ami, se sont souvenus de Jésus qui avait produit un miracle avant sa mort à cet endroit. Ils ont rendu présent en eux ce Jésus comme s'il était présent physiquement. C'est difficile de décrire une expérience spirituelle, alors les auteurs des évangiles ont décrit ces apparitions de façon très concrète en images. Ce genre d'apparition du Christ est encore très possible et quotidien dans nos vies, croyez-moi. Et c'est signé Claudette. Alors, merci beaucoup Claudette pour cette question. Je vous avoue que c'est pas facile à y répondre. C'est quand même quelque chose d'un peu particulier. Les apparitions de Jésus sont un aspect important dans la compréhension des disciples de la résurrection de Jésus. Alors, c'est quelque chose d'assez important. On est habitué de les lire sans trop se poser de questions, mais l'aspect surnaturel qu'on y retrouve nous fait réagir. Parce qu'en effet, comme Claudette le souligne, on fait pas ce genre d'expérience dans nos vies. On n'a pas vu ça, le ressuscité passer devant nous avec nos yeux, avec les yeux de notre corps, comme Claudette le dit. Ceux qui sont habitués à une lecture de la Bible plus littérale, plus traditionnelle, pourraient répondre à Claudette que, bon, il y avait un temps pour ces apparitions-là, de la résurrection à l'ascension de Jésus. Et c'est durant cette période-là que les disciples auraient vu le Christ ressuscité, puis qu'après ça, bon, c'était terminé. Par ailleurs, les récits mentionnent toujours la difficulté de reconnaître le ressuscité. Par exemple, bon, je prends le récit des disciples d'Emmaüs. Les disciples d'Emmaüs, c'est deux disciples qui sont en train de marcher vers le village d'Emmaüs. Ils parlent ensemble, puis ils rencontrent un inconnu qui vont parler pendant un certain temps, et ils vont finalement reconnaître le Christ seulement lorsqu'ils vont partager le pain et le vin. Bon, quand on regarde ce récit-là, on voit qu'il y a clairement des visées catéchétiques qui essayent de nous expliquer quelque chose. Au fond, moi, je pense qu'il illustre comment les chrétiens se rassemblent entre eux pour partager le pain et le vin, puis comment ils croient réellement que le Christ ressuscité est parmi eux lorsqu'ils font ce partage du pain et du vin. Pour ma part, donc, je peux dire que je suis assez d'accord avec Claudette. Oui, les apôtres ont vécu une expérience spirituelle très forte d'une présence du Christ ressuscité. Bon, qu'est-ce qui est arrivé exactement? Bien, ça, c'est plus difficile à décrire et à dire. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils nous ont transmis les récits contenus dans les évangiles pour témoigner de cette expérience-là. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas prendre ces récits-là pour des reportages journalistiques à prendre au pied de la lettre. Ce sont des témoignages de foi, d'abord et avant tout. Bon, en terminant, je vous suggère un excellent livre sur cette question-là, parce que c'est une question très vaste, hein, il faudrait prendre beaucoup plus de temps pour y parler. Alors, bon, je vous renvoie vers un livre, allez lire ça, ça va pouvoir alimenter votre réflexion. Ça s'appelle « Les Christophanies du Nouveau Testament ». Christophanie, ça veut dire les apparitions du Christ. « Les Christophanies du Nouveau Testament, historicité et théologie ». C'est écrit par Odette Mainville, qui était professeure de théologie à l'Université de Montréal. aux éditions Mediapol. Et elle utilise la méthode historico-critique qui vise à mettre de l'avant le côté historique de ces récits-là, aller voir est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé réellement là ou pas. C'est écrit avec une excellente rigueur scientifique. Ce livre permet au lecteur de réfléchir de façon rationnelle aux implications théologiques et historiques des apparitions, des récits d'apparition du ressuscité. Donc, si vous voulez creuser un petit peu plus cette question-là, le livre s'appelle « Les Christophanies du Nouveau Testament, historicité et théologie » d'Odette Mainville. On se laisse porter par un peu de musique de Beethoven, tiens, et on découvre le prophète Osée. Vous êtes dans l'émission « Les récits insolites de la Bible » avec Sébastien Dorn. Les prophètes, vous le savez, dans l'Ancien Testament, vont réaliser toutes sortes d'actions symboliques pour faire passer le message qu'ils veulent transmettre, un message qu'ils ont reçu de Dieu. Alors, le prophète Osée, qui est le prophète de la journée, ne fait pas exception. On va prendre un temps pour explorer sa vie, son témoignage, et pour ça, je vais vous lire le début du livre d'Osée. Je vous suggère notamment de porter attention au nom des enfants du prophète. On va y revenir parce qu'ils sont assez insolites. Donc, je vous lis le livre d'Osée au chapitre 1, les versets 2 à 9. Début des paroles du Seigneur par Osée. Le Seigneur dit à Osée, « Va, prends-toi une femme se livrant à la prostitution et des enfants de la prostitution. » car le pays ne fait que se prostituer en se détournant du Seigneur. Il alla prendre Gomère, fille de Divalaïm, elle conçut et lui enfanta un fils. Et le Seigneur dit à Osée, « Donne-lui le nom d'Israël, car encore un peu de temps, et je ferai rendre compte à la maison de Jéhu du sang d'Israël, et je mettrai fin à la royauté de la maison d'Israël. Il arrivera en ce jour que je briserai l'arc d'Israël dans la vallée d'Israël. » Elle conçut encore et enfanta une fille. Le Seigneur dit à Osée, « Donne-lui le nom de Lo-Ruhama, c'est-à-dire non-aimé, car je ne continuerai plus à manifester de l'amour pour la maison d'Israël. Je le lui retirerai tout entier. Mais la maison de Juda, je l'aimerai, je les sauverai par le Seigneur leur Dieu. Je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par la guerre, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. Elle sera Lo-Ruhama, puis elle conçut et enfanta un fils. Et le Seigneur dit, « Donne-lui le nom de Lo-Ami, c'est-à-dire celui qui n'est pas mon peuple, car vous n'êtes pas mon peuple, et moi, je n'existe pas pour vous. » C'était un extrait tiré du livre d'Osée, chapitre 1, les versets 2 à 9. On voit ici l'audace du prophète Osée qui est d'assumer dans sa propre vie les rapports entre le Seigneur et son peuple, qui est qualifié ici d'infidèle. Alors, le message qu'il veut envoyer, il l'envoie à travers son propre mariage avec une prostituée. Puis, bon, ce qui est intéressant, moi, en faisant mes petites recherches là-dessus, c'est de voir qu'il y a une possibilité qu'il y ait quelque chose d'historique dans cette relation entre Osée et la femme qui va marier, qui serait prostituée. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'il y a une chance que ça se soit déroulé ainsi? Bien, c'est que, on peut jamais l'être sûr, mais il y a un indice qui est intéressant. On a entendu les noms des enfants d'Osée. Ils sont tous très symboliques. Pourtant, le nom de la femme d'Osée, c'est Gomère. Gomère, ça veut rien dire en hébreu. Si l'histoire était pure fiction, bien, l'auteur aurait pu lui donner un nom beaucoup plus évocateur. Donc, peut-être que c'est une façon de nous dire que le mariage du prophète avec une prostituée se soit réellement arrivé. Bon, enfin bref, au-delà de la question d'historicité, c'est pas ça qui est le plus intéressant. L'important, c'est la signification donnée par Osée à toute cette aventure-là. Épouser une prostituée, bon, c'était un geste insensé pour un homme de la Bible. Ça se faisait pas. Aussi insensé, peut-être, on pourrait dire, que l'amour de Dieu pour un peuple qui lui est infidèle. L'histoire d'Osée et de Gomère devient l'allégorie d'un rapport entre Dieu et son peuple. Bon, ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est les noms des enfants. Les noms des enfants sont des symboles pour provoquer ceux qui les entendent et transmettre un message prophétique. Le premier, son nom, c'était Israël. Ce nom-là, c'est un lieu en Israël. C'est une plaine qui est très fertile. Mais, bon, dès qu'il nomme Israël, il l'associe tout de suite à un événement historique. Non seulement un lieu, mais un événement. L'événement, c'est là où j'ai eu à massacrer la dynastie du roi Omri pour prendre le pouvoir et séparer le pays, jusqu'à date qui était un, en deux royaumes indépendants, le royaume du Sud et le royaume du Nord. On voit ça dans le Livre des Rois. Cette action-là est condamnée par Osée. Pour lui, ça n'a pas de sens que le peuple qui était un soit séparé en deux. Et il annonce la fin du royaume d'Israël, c'est-à-dire le royaume du Nord. Pour lui, c'est un non-sens qu'il y a deux royaumes, puis il faut que ça revienne à un royaume. On va voir plus tard, qu'on va en reparler, probablement que cette partie-là a été écrite après la destruction du royaume du Nord. C'est une façon d'essayer d'expliquer comment ça se fait que Dieu a laissé ce royaume-là mourir. Bon, donc le premier nom d'un enfant, c'est Israël, pour faire référence à cet événement historique-là. Le deuxième enfant, c'est une fille, et elle hérite d'un nom assez dur, la pauvre. Elle s'appelle Non-Aimée. Imaginez-vous, moi, quand je lis ce passage-là, je m'imagine Osée en train de présenter son beau bébé à la famille, à la belle famille, en leur disant que son nom sera Non-Aimée. C'est quand même assez particulier. Osée précise que l'amour de Dieu ne sera plus manifesté au peuple et même complètement retiré de ce royaume du Nord par ce nom symbolique donné à son deuxième enfant. Le troisième enfant, c'est un fils. Lui non plus, il n'est pas très chanceux. Son nom, c'est « Celui qui n'est pas mon peuple ». Drôle de nom, « Celui qui n'est pas mon peuple ». Tout de suite, on a l'explication qui vient tout de suite après. Le prophète va dire « Vous n'êtes pas mon peuple et je n'existe pas pour vous ». Cette formulation-là est assez particulière. C'est en lien avec le nom même du Seigneur. Au buisson ardent, livre de l'Exode, au début, chapitre 3, verset 14, Dieu va révéler son nom à Moïse. Vous vous en rappelez, il va dire « Je suis celui qui suis » ou « Je suis celui qui serai ». C'est le fameux « Yahvé ». C'est un mot qui est assez compliqué à traduire. Bon, mais la parole qui est dite par Osée, c'est à quelque part, il paraphrase ceci en disant que Yahvé, celui qui est, n'est plus pour vous. Donc, on comprend ce nom donné à son enfant, « Celui qui n'est pas mon peuple », c'est assez particulier. Donc, tout va mal. Les trois noms sont porteurs de symboliques très négatives. Ils évoquent les infidélités du peuple et les conséquences de celles-ci. Israël, le royaume du Nord, n'est plus le peuple du Seigneur, qui ne l'aime plus et qui l'avertit qu'il sera détruit. Si c'était juste ça, ça serait un livre assez négatif. Heureusement, l'histoire ne se termine pas là. Le chapitre 2 du livre d'Osée va utiliser les mêmes noms des enfants, mais va les tourner de façon différente pour évoquer une ère de bonheur qui pourrait peut-être arriver suite à tout ça. Je vous lis un extrait du livre d'Osée, chapitre 2, les versets 1 à 3. Le nombre des fils d'Israël sera comme le sable de la mer qu'on ne peut ni mesurer ni compter. Et il arrivera qu'à l'endroit où on leur disait « Vous n'êtes pas mon peuple », on leur dira « Fils du Dieu vivant ». Les fils de Juda et les fils d'Israël se réuniront. Ils se donneront un chef unique et ils submergeront le pays. « Car grand sera le jour d'Israël. Dites à vos frères, amis, mon peuple, à vos sœurs, Rouama, c'est-à-dire bien-aimés. » Osée, chapitre 2, les versets 1 à 3. Alors, on voit les trois noms qui étaient négatifs sont devenus positifs. Alors, à nouveau, Israël est appelé mon peuple et à nouveau bien-aimé. Et celui qui n'était pas, on disait qu'en Israël, ça allait être le lieu où de la séparation, mais là, ça sera le lieu de la réunion. Malheureusement, la destruction du royaume du Nord, prédit entre guillemets par Osée, va avoir lieu. Ça va se passer en 722 avant Jésus-Christ, aux mains des Assyriens. Je vous ai dit entre guillemets prédit par Osée. Je mets des guillemets parce que, en réalité, le livre a été composé après cette destruction-là. Pourtant, le livre est écrit après, mais il met en scène un prophète qui arrive avant 722 puis qui annonce cette réalité qui va arriver. Alors donc, en quelque sorte, il prophétise quelque chose qui est déjà connu lorsqu'on écrit le texte. En fait, les noms des rois qui sont indiqués dans le livre d'Osée, c'est ça qui va nous dire que ça a été écrit plus tard, il va parler de rois qui y arrivent seulement après la destruction en 722. Donc, on sait qu'on a affaire à un livre qui est écrit après cette destruction du royaume du Nord. Donc, sa prédiction, entre guillemets, est en fait une interprétation théologique du passé. Il regarde qu'est-ce qui s'est passé, puis il dit « il me semble que c'est pour ça que c'est arrivé ». Alors, il va mettre ça sous le genre littéraire de la prédication, mais dans le fond, c'est une interprétation théologique du passé. Le récit est probablement écrit alors que le royaume du Sud subsiste encore. Alors, ceux qui habitaient au royaume du Nord, il y en a plusieurs qui sont venus se réfugier au Sud, mais ils subsistent de façon précaire parce qu'il y a toutes sortes d'autres nations, comme la Syrie, qui vont venir frapper à leur porte. Et bon, c'est ça. Souvent, les prédications des livres prophétiques de la Bible sont en effet des relectures théologiques du passé, comme on le disait. Parfois, c'est aussi des vrais avertissements devant ce qui pourrait être évident pour celui qui a les yeux ouverts. On voit les armées de la grande nation qui sont à notre porte. La ville risque de tomber si on ne fait rien. On n'a pas besoin d'être en connexion particulière avec Dieu pour se dire « il faut faire quelque chose ». Bon, on a vu à la fin qu'il y a une lumière d'espoir. L'espoir transmis par Osée, par les nouveaux noms de ses enfants, c'est que le royaume qui était jadis séparé en deux et menacé de destruction par les autres nations vont finir par se réunir. Et cette réunion-là, va donner lieu à une relation fidèle, aussi fidèle que celle que le Seigneur a envers son peuple. Suite à cette présentation du livre d'Osée, pouvez-vous voir des liens avec vos vies? J'avoue que ce n'est pas évident, c'est un texte qui a été écrit dans un contexte très différent du nôtre, mais j'aimerais ça qu'on essaye d'y réfléchir, et moi-même, j'en ai trouvé quelques-uns, quelques liens à faire. On va se les partager dans quelques instants, mais avant de s'y plonger, écoutons encore un peu de Beethoven. Vous êtes à l'écoute des récits insolites de la Bible en compagnie de Sébastien Daune sur les ondes de Radio Ville-Marie. On regarde aujourd'hui le livre d'Osée, un prophète qui a fait un choix assez osé, hein, ça va bien avec son nom. Il a marié une prostituée pour faire une analogie entre Dieu et le peuple qui lui est constamment infidèle, mais que Dieu continue à être en relation avec ce peuple infidèle-là. Alors, Osée a marié une prostituée, puis ensuite, il a eu trois enfants. Là, les noms des trois enfants, Israël, Non-Aimé et Pas mon peuple. Des noms assez particuliers pour montrer que le royaume du Nord, la partie Nord d'Israël, sera détruit parce qu'elle s'était séparée du royaume du Sud. Bon, cette histoire est assez particulière, ça date d'un certain temps, c'était dans un contexte très particulier avec la Syrie qui rentre, qui détruit tout ça. Comment est-ce que cette vieille histoire-là peut avoir des liens avec nos vies? Pour moi, la relation difficile entre Osée et Gomère, bien, c'est le symbole, on l'a dit, entre le Dieu et son peuple. On a vu que la fidélité du peuple n'était pas toujours au rendez-vous. Moi, je pose la question. Aujourd'hui, est-ce qu'on a l'humilité de voir que peut-être que nous sommes encore dans une relation à Dieu qui n'est pas parfaite, qui est marquée par l'infidélité? Puis on va regarder ça tant au niveau individuel, moi, ma relation à Dieu, que collectif, comme Église. Alors, comme individu, comme Église, est-ce que, par hasard, on a des infidélités par rapport à Dieu? Et moi, je pense qu'on ne peut qu'être infidèle à l'appel qui nous est transmis par les Évangiles. Il y a des passages comme Matthieu 5, 48 qui nous dit « Vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». on est encore loin de la perfection. On a toujours à s'améliorer. Donc, il y a quelques imperfections qui sont à travailler. Hein. Nos imperfections, ça ne nous empêche pas de tendre vers quelque chose de mieux, de se remettre en question, puis d'essayer d'avancer. Le peuple d'Israël, à l'époque, ce qui était dénoncé par Osée, c'est qu'il se tournait vers des idoles, vers d'autres dieux. Est-ce qu'on fait ça, nous autres? Que devons-nous faire pour revenir à l'amour de Dieu qui cherche encore à nous séduire? Il me semble que la plus grande infidélité à Dieu que nous vivons au niveau ecclésial, mais aussi personnel des fois, c'est l'exclusion, le rejet des autres. Lorsqu'on voit la pratique de Jésus, quand on lit les évangiles, il est toujours en train d'aller vers les pauvres, vers les malades, vers les prostituées, bref, tous ceux qui étaient exclus de la société. Personnellement, moi, il n'y a rien Moi, c'est horrible pour moi quand je vois ça. Moi, je suis horriblement blessé lorsque je vois que l'Église ou des chrétiens vont exclure des personnes au nom de leur conception de Dieu ou de la moralité. Pour moi, c'est comme un non-sens total lorsqu'on compare ça avec les récits des évangiles. Beaucoup de personnes aujourd'hui ressentent un jugement et se sentent exclues de l'Église. Bon, il y a plusieurs exemples. Ça peut être par rapport à l'homosexualité, alors les homosexuels, les divorcés, remariés, ceux qui utilisent un moyen de contraception, ceux qui vivent en dehors des liens du mariage, bon, etc. Toutes ces personnes-là vont dire qu'ils se sentent exclus de l'Église. Avez-vous remarqué qu'étonnamment, toutes ces exclusions ont un rapport avec la sexualité? Moi, je pense qu'il y a anguille sous roche, il faudrait voir comment ça se fait que la sexualité marque tellement l'exclusion dans notre Église. Pourquoi est-ce que le jugement de l'Église semble plus sévère pour ces personnes-là que pour d'autres? Hein? Il y a toutes sortes d'autres crimes qui sont beaucoup plus graves, mais pour lesquels on parle peu ou pas dans l'Église. Puis le pire dans tout ça, c'est qu'il y a tant de monde qui ne veulent rien savoir de l'Église à cause justement de ses positions au sujet de ces questions-là. Récemment, ici au Québec, il y a le nouvel évêque de Montréal qui était allé à Tout le monde en parle, puis on voyait que beaucoup de personnes ne voulaient même pas écouter ce qu'il y avait à dire sur l'amour, sur la résurrection, sur toutes sortes d'autres questions, parce que la position de l'Église sur les questions de sexualité était tellement inacceptable pour monsieur et madame tout le monde qu'ils n'étaient pas prêts à l'écouter. Est-ce qu'on pourrait avoir comme Église le courage de se remettre en question? Le prophète Osée n'a pas hésité à remettre en question les autorités politiques et religieuses de son époque pour renouveler le lien entre Dieu et son peuple. Moi, je pense que c'est à nous de faire le même cheminement. En passant, j'aimais le questionnement aujourd'hui. Ce questionnement-là, il vient de... parce que je l'aime, mon Église. Je fais partie de cette Église-là et je veux qu'elle devienne un lieu de sens pour nos contemporains qui sont pourtant portés à l'exclure, à la mettre de côté parce qu'eux-mêmes se sentent exclus par elle. Alors, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. On pourrait aussi réfléchir sur notre relation personnelle à Dieu. Nous aussi, on a des infidélités dans nos vies par rapport à lui. Sommes-nous réellement fidèles à ses appels? Mais bon, puisque je ne vous connais pas intimement, je vais vous laisser faire vos propres réflexions à ce sujet-là. Fait que pensez-y, essayez de voir où dans ma vie je pourrais essayer de travailler ma relation avec Dieu, et ça sera libre à vous d'essayer d'apporter des modifications sur ça. En cette fin d'émission, j'espère que vous avez apprécié ce contenu à propos du prophète Osée et du nom de ses trois enfants qui était assez spécial, des noms qui étaient très symboliques et qui essayaient de nous faire réfléchir sur la fidélité qu'il faut avoir envers Dieu et qui, malgré nos infidélités, continue à vouloir faire alliance avec nous. Pour aller plus loin, je vous suggère un livre intitulé « Mais d'où vient la femme de Caïn » qui a été publié chez Novalis et Mediapol l'année dernière. Alors, c'est moi-même qui en ai l'auteur. À la suite de l'écoute de nos émissions, ou même de la lecture de ce livre-là, si vous avez des questions, des commentaires, des réactions, n'hésitez pas à m'écrire. J'aime ça, pouvoir avoir une émission le plus interactive possible. Donc, si vous faites des découvertes, contactez-moi. Je vous donne le courriel habituel de la station. C'est la façon la plus rapide et facile de correspondre ensemble. C'est auditoire@radiovm.com. auditoire@radiovm.com. Vous pouvez aussi utiliser le téléphone ou vous pouvez utiliser les bonnes vieilles lettres, hein, avec un timbre et tout ça, avec l'adresse et le numéro de téléphone habituel de la station. La prochaine fois, on va regarder un récit qui, moi, j'ai toujours trouvé assez troublant, probablement que vous aussi, Abraham. Abraham a fait quelque chose d'assez scandalisant. Il va presque sacrifier son propre fils. À la dernière minute, un ange va l'arrêter. C'est un récit que moi, je trouve assez troublant. Un père qui va tuer son fils, il y a vraiment de quoi réfléchir là-dessus. Comme à l'habitude, je remercie Alain Primo, notre fidèle technicien. Merci à chacun, chacune d'entre vous qui prenez le temps d'écouter notre émission de façon attentive et d'accepter de plonger avec moi dans les pages moins connues de la Bible. C'était Sébastien Daune, bibliste. À bientôt.